affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour va nous emmener bien loin de notre studio des Quais de Seine. Nous allons en effet embarquer pour un incroyable et long périple qui nous mènera du désert d'Alma sur les hauteurs du Chili au laboratoire du CERN en passant par un nombre invraisemblable d'étapes géographiques mais aussi intellectuelles et même spirituelles. Nous allons y croiser, y suivre un scientifique qui croit aux signes, une physicienne rescapée d'un séjour quantique et un as de l'informatique, tous volontairement, plus ou moins volontairement, à la recherche de la solution à une énigme et à la quête d'un spectre baptisé le spectre d'Atacama. Et c'est également le titre de l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui. Il a été écrit par Alain Cohn, Dany Chérault et Jacques Dixmier. Dans notre studio, nous avons la chance de recevoir Alain Cohn. Alain Cohn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'analyse et géométrie, membre de l'Académie des sciences et de plusieurs académies étrangères, dont la National Academy of Science des États-Unis. Vous êtes donc mathématicien et vous avez obtenu la médaille Field en 1982 parmi d'autres distinctions. Lorsque je vous présente de la sorte, je pense que nos auditeurs vont se dire que je me suis trompé, que vous n'êtes pas ici pour un roman, mais pour un traité. Et pourtant, le spectre d'Atacama est bien un roman, même si la science en est le véritable sujet. Pourquoi avoir choisi cette forme du roman ?
Alors, c'est une excellente question. La raison est la suivante, c'est que lorsque on veut expliquer certains sujets, aussi bien en physique qu'en mathématiques, nous avons fini par avoir l'idée qu'il fallait que le ton d'abord ne soit pas un ton dogmatique. C'est-à-dire que, bon, il y a des traités, bien sûr, qui traitent de tel ou tel sujet, qui sont accessibles seulement aux spécialistes, et dont le ton est parfaitement dogmatique. C'est-à-dire on présente une théorie, etc. Et ici, l'idée est totalement différente. L'idée, c'est d'embarquer le lecteur avec nous dans un roman, qui est un roman d'aventure, donc en fait dans un périple, hein, c'est vraiment un périple, un long voyage, qui part effectivement de l'observatoire d'Alma dans le désert d'Atacama. Et on a envie de transmettre de la science, donc de la science aussi bien pour les mathématiques que pour la physique, etc. Mais de la transmettre de telle sorte que le lecteur se sente embarqué avec nous et qu'il n'ait pas l'impression qu'on veut lui imposer quelque chose et que finalement son esprit soit déjà en mouvement, que le cadre qui est autour soit déjà approprié pour qu'il puisse recevoir certaines idées. Alors, pour prendre un exemple, on parle des nuages de Magellan, on parle de l'expansion de l'univers, etc. Quand on est sous le ciel austral, dans le désert, dans un long périple à pied, et le cadre incite alors à se poser des questions, comme si on était sur place finalement, et le lecteur va à ce moment-là recevoir des explications simples, mais qui vont lui permettre en plus de rêver. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que le roman est simplement un, je dirais pas un prétexte, parce que le livre doit être lu comme un roman. Le caractère du roman joue un rôle essentiel, à la fois pour mettre l'esprit en mouvement, comme il se produit dans un voyage, etc., pour aussi de temps en temps calmer les choses, c'est-à-dire qu'il y a un long séjour dans l'île des États, qui est tout à fait au sud de l'Amérique du Sud. Et là, je veux dire, il y a d'autres aspects de, comment dire, de la recherche scientifique qui apparaissent. Donc, le roman Le Voyage est une espèce de métaphore d'un voyage spirituel qui a lieu à l'intérieur de l'esprit, si vous voulez, du scientifique, mais qui permet de le faire en sa compagnie. Voilà.
Phoenix n'était pas un prétexte de fait, et je dois dire, moi qui l'ai lu en tant que lecteur, c'est un véritable roman avec du suspense, trépidant, des personnages qui ont de la chair et auxquels on s'attache. Voilà. C'est important de le préciser.
C'est très important.
Mais au-delà, avoir écrit un roman consacré à la science et aux élans de la science, est-ce que par ce procédé même, il n'y a pas chez vous une volonté, consciente ou non, de réconcilier la science et d'autres aspects de l'activité humaine, comme par exemple la littérature?
Oui, alors réconcilier, ce serait prétentieux. On a essayé, on a fait un essai, mais c'est un essai... c'est effectivement un genre nouveau. C'est effectivement un genre nouveau et, par exemple, c'est pas clair dans les librairies... Où le livre va être placé. S'il est placé dans le rayon science et au pire dans le rayon mathématiques, c'est une catastrophe parce que c'est pas le but. Le but vraiment, c'est pas du tout un traité, pédagogique, pas du tout. C'est quand même foncièrement un roman. Et donc, mais c'est un roman dont l'idée est précisément d'essayer d'attirer vers la science. Vers certains aspects de la science. Bon, par exemple, le fait que, si vous voulez, les mathématiques, c'est très dommage. En général, on les présente comme un repoussoir parce que ça a été utilisé et c'est encore utilisé comme un moyen de sélection. Mais à partir du moment où le lecteur se laisse, un peu par hasard, si vous voulez, se laisse happer et comprend de quoi il s'agit, arrive à percevoir de quoi il s'agit par des choses très simples, et bien à ce moment-là, on n'aura pas perdu notre temps. Parce que finalement, ce qu'on veut faire, c'est essayer d'utiliser le roman pour abaisser ces barrières complètement artificielles qu'il y a justement entre la littérature et les sciences. Pourquoi ? Parce que la littérature, c'est par définition, si vous voulez, le summum de la parole, le summum de la communication. Et ça manque terriblement, en particulier aux mathématiques. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, si vous voulez, d'abord, les mathématiques, on ne les apprend qu'en en faisant, mais pour en faire, il faut avoir été initié. Et pour avoir été initié, il faut que cette barrière de psychologique ait été abaissée. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas du tout évident, parce que la plupart des gens qui n'ont jamais fait de mathématiques, qui n'ont pas fait de mathématiques, qui n'aiment pas les mathématiques, la raison pour laquelle ils sont dans cette attitude-là, c'est qu'ils se disent « Ah, c'est pas fait pour moi, je ne suis pas mathématicien, etc. » D'ailleurs, on a fait des expériences extraordinaires au niveau psychologie. On a fait, par exemple, une expérience... la suivante, mais c'était plus pour montrer à quel point, si vous voulez, ce genre d'idées préconçues, par exemple, l'idée préconçue que les gens ont, que les hommes sont plus doués pour les maths que les femmes, enfin des choses comme ça. Et on a fait l'expérience suivante, on a mis dans deux pièces différentes, deux groupes qui avaient autant d'hommes que de femmes, autant de garçons que de filles. Dans les deux pièces.
Dans chaque groupe.
Dans chaque groupe, il y avait autant de garçons que de filles. Dans la première pièce, on leur a donné un exercice. L'exercice, en gros, c'était... il y avait une figure, on leur montre une figure géométrique pendant environ une minute et demie. La figure est compliquée. Hein. C'est un rectangle, il y a des carreaux dedans, il y a des diagonales, il y a des hachures, enfin, etc. Et au bout d'une minute et demie, on leur demande de reproduire la figure. On enlève la figure, on leur demande de la reproduire. Dans la première pièce, on a expliqué que aux candidats qui étaient là, donc il y avait autant de garçons que de filles, on a expliqué qu'en général, les gens doués pour les mathématiques réussissaient très bien dans cet exercice. Bon. Dans la deuxième pièce, il y avait encore autant de garçons que de filles, c'était au même moment, on leur a donné le même exercice, et on leur a expliqué que les gens qui étaient doués pour l'art réussissaient extrêmement bien dans cet exercice. Eh bien, vous me croirez ou pas, les filles ont eu des résultats catastrophiques dans la première pièce et ont eu des résultats formidables dans la deuxième.
Et elles se sont conformées
aux présupposés. Et donc ça montre, si vous voulez, à quel point...
La force des préjugés.
Et pour arriver à vaincre cette espèce de fatalité, puisque c'est une vraie fatalité, si vous voulez, le seul moyen qu'on ait trouvé, c'est d'essayer de le contourner, et de le contourner en essayant de marier précisément le côté littéraire avec le côté scientifique.
Voilà. Oui, on sent que tout au fil du roman, c'est l'un des enjeux, vous faites tomber toutes les barrières entre
c'est
les mathématiques
voilà.
et l'ensemble des autres disciplines.
Exactement.
J'ai dit la littérature, mais on pourrait citer aussi la métaphysique, nous y reviendrons.
Oui, absolument, bien sûr.
La musique, l'ensemble des arts.
Tout à fait.
Et jusqu'à la bande dessinée.
Jusqu'à la bande dessinée, absolument.
Le titre.
Voilà. Bien sûr, le titre évoque irrésistiblement le sceptre d'Ottokar, bien entendu.
Oui, ou Oscar Capac.
Oui, bien sûr.
C'est une sonorité à l'air. J'ai très très bien trouvé.
D'accord, très bien.
Voilà. Alors, justement, est-ce que la façon dont finalement les mathématiques, de façon plus vaste, et la science ont perdu de leur attrait de la poésie qui pouvait être liée n'est pas un trait de notre époque et même de notre époque récente? Parce que quand vous faites référence à Hergé, mais aussi à Jules Verne, on sent que la science...
Absolument.
Était d'un énorme attrait
absolument.
Pour
général,
les jeunes et se trouvait
tout monde,
au cœur
tout à fait de la société,
absolument, et même des engouements
absolument tout à fait.
Comment expliquez-vous ce changement de...
c'est très difficile à analyser parce que si vous voulez là on est obligé d'analyser les choses plus en profondeur, c'est-à-dire que mon impression, mais ce n'est qu'une impression et c'est qu'un avis tout à fait personnel, mais mon impression est quand même la suivante, c'est qu'on vit une époque qui est un peu semblable, par certains côtés, au début de l'imprimerie ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un tel renouveau au niveau des instruments qu'on utilise à cause de l'informatique que, en fait... Je veux dire, il y a manifestement, par exemple, une classe d'âge qui est mise de côté. C'est-à-dire que quand on voit maintenant que pour payer leurs impôts, ou etc., les gens sont obligés d'utiliser Internet, je veux dire, on se rend compte qu'on impose de plus en plus un mode de vie qui peut être parfaitement inaccessible pour une certaine classe de personnes. Et qui, en fait, affecte en profondeur, mais vraiment très très loin, le comportement. Par là, j'entends la chose suivante, c'est qu'on arrive finalement à avoir un comportement qui est complètement non individualisé. C'est-à-dire que quand on va envoyer des vœux maintenant pour la nouvelle année, etc., on va utiliser une carte qui va être utilisée par 1 million de personnes différentes, et on va l'envoyer comme ça. Donc, on est en train d'arriver à une dépersonnalisation. J'ai l'impression. Ça ne répond pas exactement à votre question, mais c'est un point essentiel qu'il faut signaler. C'est qu'on arrive à une dépersonnalisation dont les gens ne se rendent pas compte, parce qu'en fait, on les attrape par le côté individualiste. C'est-à-dire que quand ils vont sur Facebook, etc., ils donnent sur eux des renseignements. Et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ces renseignements vont être utilisés pour les mettre dans une certaine catégorie, dans une certaine boîte, et qu'après, leur individualité dans cette boîte-là n'existera plus. Et moi, je m'en aperçois tous les jours, parce qu'il m'arrive de recevoir, mais alors c'est fait par des machines de manière évidente, des propositions de travail qui sont absolument délirantes. J'en ai reçu une aujourd'hui qui était proposition de pédagogie dans un coin perdu du Québec. Enfin, je veux dire, et c'est évident que ça s'est fait par des machines. C'est fait par des machines et que, donc, on en arrive, on ne se rend pas compte, mais à mon avis, on est dans une période où ce qui se produit est bien pire que le fait que les gens ne sont plus directement intéressés par la science, etc. On en arrive à une situation dans laquelle les individus vont probablement très progressivement se transformer en cellules d'un organisme beaucoup plus grand, qui a déjà une mémoire, qui s'appelle Google, qui à un moment donné aura une intelligence, si on peut appeler ça une intelligence, mais avec le machine learning, etc., et où l'individu lui-même ne sera plus utilisé que pour ce qu'il est, c'est-à-dire à quelle case il appartient. Il passera son temps à mettre des codes sur des ordinateurs, il passera son temps à obéir à des injonctions, on lui demandera de faire ci, de faire ça, etc. Et la créativité, la vraie individualité aura disparu. Et on peut voir dans le livre qu'on a écrit une espèce de cri de détresse, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on explique dans le livre, l'un des personnages centraux du livre, qui s'appelle Armand, au démarrage, on ne va pas déflorer l'histoire, mais si vous voulez, en fait, la chose essentielle qui lui arrive, c'est qu'il réagit au fait que, bon, ben, on passe notre journée à regarder notre courrier électronique et à obéir aux injonctions. Quand on est mathématicien, par exemple, on reçoit qu'on doit faire un rapport sur un tel ou un tel, etc. Et finalement, si on est efficace, c'est-à-dire si on le fait, on en reçoit un autre. Donc, si vous voulez, et finalement, on arrive à un comportement dans lequel l'ennui a disparu. Et ça, c'est une catastrophe terrible. Et pour vous donner un exemple une chose qui était arrivée dans l'état ancien, je crois que c'était le président des États-Unis qui était venu visiter l'Institute of Advanced Studies à Princeton il n'avait pas prévenu. Donc c'était Oppenheimer qui était le directeur, et Oppenheimer lui avait fait visiter l'Institut, comme ça, c'était pas prévu, bien sûr. Donc. Et à un moment donné, et ils ont frappé à la porte du bureau d'un mathématicien, et puis ils sont rentrés et ils ont trouvé le mathématicien qui était allongé sur sa table de travail en train de dormir. Donc, bien sûr, à cette époque-là, il était évident qu'il était en train de réfléchir, bien sûr. Et que les mathématiciens en particulier, mais les physiciens aussi, avaient de très très longues périodes de temps pendant lesquelles on n'avait pas l'impression qu'ils travaillaient. On avait l'impression qu'ils ne faisaient rien. Mais bien sûr, c'était des périodes cruciales, parce que c'était des périodes pendant lesquelles ils réfléchissaient, pendant lesquelles, si vous voulez, leur cerveau était en train de comprendre des choses de manière lente, etc., en train d'explorer des choses simplement dans leur tête, sans utiliser quoi que ce soit, sans utiliser même un papier et un crayon. Donc, il y a une espèce de cri d'alarme dans ce livre, qui est que nous devons réagir à ça. Et c'est terrible, parce que maintenant, quand je me promène dans les rues de Paris, je vois un piéton sur deux qui est en train de regarder son iPhone. Je me demande toujours comment ils font pour ne pas se faire écraser. Et c'est pareil dans les transports en commun, etc. Donc, on voit que, de plus en plus, les individus vont être connectés. Et donc, un espèce de cerveau central va leur demander de faire ceci ou cela, etc. Et l'individu va disparaître. Moi, c'est ce que je crains, bien sûr. Bon, je veux dire, c'est pas nouveau comme idée. Hein. Je veux dire, Teilhard de Chardin en avait parlé, mais je veux dire, mais c'est en train de se produire. Et c'est en train de se produire terrible, de manière incroyable, parce que c'est avec l'assentiment de tout le monde. Alors, les gens sont extrêmement impressionnés par les grandes prouesses du machine learning qui a battu au jeu de Go, etc. Et j'avoue que moi, ça me laisse tout à fait perplexe, non pas parce que, bien sûr, c'est un exploit. C'est un exploit qui a été rendu possible par le fait qu'on a des puissances de calcul considérables à cause des cartes graphiques. Mais ce qui me laisse perplexe, si vous voulez, c'est le fait que ces machines, et ce que je vois, en fait, c'est la victoire de l'empirisme. C'est-à-dire que ce qu'elles font, on ne comprend pas pourquoi elles le font. On ne comprend pas comment elles le font. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répéter ce qu'elles font de manière intelligente. Et ça, c'est terrible, parce que c'est abandonner notre pouvoir de compréhension.
Oui, c'est-à-dire que c'est l'abandon de ce qu'il y avait au cœur de l'esprit humain. Exactement. Lorsqu'il s'est lancé dans la science.
Exactement. Et c'est l'abandon, si vous voulez. Et j'ai un exemple très précis, parce que j'ai vu récemment une conférence dans laquelle un des exploits, c'était de reproduire certaines molécules, etc., ou certains spectres atomiques, etc. Mais on reproduit ces choses-là comme on les reproduit, mais on n'avait pas l'explication. Alors que l'explication, par exemple, dans ce cas-là, c'est l'équation de Schrödinger. Mais alors, c'est terrible. C'est terrible, parce que ça veut dire qu'on est capable de reproduire des choses sans comprendre ce qui se passe derrière. Donc, c'est efficace, bien sûr, dans certains cas, bien sûr. C'est remarquablement efficace, par exemple, pour la traduction, maintenant, ça c'est vrai. Mais on est en train si on continue la tête baissée dans cette direction-là, on est en train d'oublier un ingrédient essentiel de l'âme humaine et un ingrédient essentiel de l'esprit humain, qui est bien sûr la création de concepts, qui est l'un des propres de l'esprit humain et des mathématiciens. Et bien sûr, on est en train aussi d'ignorer toutes les particularités qui font qu'un chercheur est tel qu'il est, que l'âme humaine est beaucoup plus complexe qu'une machine, beaucoup plus complexe justement à cause de la littérature, à cause de toutes ces choses-là. Voilà.
J'ai dit tout à l'heure que c'était un roman scientifique.
Oui.
Je commence à me demander si ce n'est pas aussi un roman métaphysique.
Oui, il y a ce côté-là, parce que ce côté-là est quand même extrêmement préoccupant. Si vous voulez, quand on regarde la vie courante d'un chercheur, la vie courante d'un chercheur est quand même terriblement biaisée de nos jours par le fait qu'il est constamment en contact par message électronique avec le monde entier. Et que, justement, son temps ne comprend plus ces longues, longues, longues périodes d'ennui qui étaient tellement propices à la création. Tellement propices à la création. Je veux dire, y a tellement d'exemples où un concept merveilleux a été trouvé comme ça, que c'est vraiment inquiétant.
Voilà. Oui, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. On va essayer de les prendre, non pas dans l'ordre, mais l'une après l'autre. L'un des personnages, d'ailleurs, c'est peut-être comme ça que vous l'exprimez, ressent le besoin assez rapidement de les ciseler dans la trappe.
Oui.
Mais là, évidemment, c'est une démarche de rupture personnelle. Mais même tout au long du roman, on sent que dans cette quête de connaissance, il doit résoudre une énigme cruciale. C'est par l'isolement.
Bien sûr. Bien sûr.
Qu'il répond à cette nécessité.
Bien sûr. Tout à fait. C'est-à-dire, si vous voulez, en fait, justement, quand quelqu'un est confronté à un problème extrêmement difficile, s'il est constamment sollicité par d'autres tâches, c'est évident que c'est une perturbation majeure. C'est une perturbation majeure, parce que finalement, c'est beaucoup plus facile même de faire un rapport ou de répondre que de chercher un problème vraiment difficile.
Oui, l'autre chose, c'est qu'il n'obéit pas à un protocole spécifique.
Bien sûr.
Il laisse son esprit divaguer.
Bien sûr. C'est crucial de laisser la liberté totale à son esprit. C'est quelque chose d'essentiel. Bon, il y a un exemple, il y a cet exemple d'un mathématicien bien connu qui s'appelle Alexandre Rotindic, mais qui lui aussi a tellement montré par son existence dans sa vie à quel point être seul est important. Être seul est important.
Oui, il faut peut-être le présenter, parce que vous dites qu'il est très connu, mais pas pour tous nos auditeurs.
Bon, alors, disons que c'est un mathématicien qui a eu la médaille Fields en 1966 et qui est devenu très célèbre dans les années 60 par ses travaux mathématiques, par la profondeur de ses travaux mathématiques en géométrie algébrique. Et par la création d'un concept, de plusieurs concepts, bien sûr. Je ne vais pas parler de concepts techniques, mais il y a un concept qui va bien au-delà du cadre technique qu'il a créé, c'est le concept de topos. Alors ensuite, à la fin des années 60, au début des années 70, il a délibérément choisi de se mettre à l'écart du milieu mathématique.
Et du monde même.
Du monde après. Ah. Donc là, il s'est mis à l'écart du milieu mathématique lui-même. Et ça a duré un certain nombre d'années, jusqu'en 1990. Et au début des années 90, là, il s'est mis vraiment à l'écart du monde. Au point que sa famille elle-même ne savait pas où il était. Son fils a trouvé par hasard où il était, son adresse, au hasard d'une requête qu'il avait faite à la Sécurité sociale. Comme il avait le même prénom que son père, on l'a confondu avec son père, il a su où son père était. Il ne le savait pas depuis un certain nombre d'années. Donc en fait, il s'est mis complètement à l'écart du monde. Et ce qu'il a essayé de faire, c'est vraiment absolument étonnant. Il a essayé de faire ce que son père n'avait pas pu faire. C'est-à-dire son père, qui était un révolutionnaire anarchique, qui est mort en camp de concentration, n'avait pas eu le temps dans sa vie d'écrire, alors qu'il était profondément... qu'il avait un message, enfin, qu'il était... Et alors, ce qu'a fait Grothendieck, donc, c'est que dans la dernière partie de sa vie, il était dans un village des Pyrénées, complètement isolé. Et là, il a passé son temps à écrire. Et le texte qu'il a écrit à ce moment-là n'a pas encore été divulgué. On l'a trouvé à sa mort. Ça contient des milliers et des milliers de pages. Et le sujet... Il est devenu mystique dans cette période de sa vie. Et le sujet essentiel de son texte, qui n'est pas connu, c'est le problème du mal. Donc, je veux dire, on en parle dans le livre. Donc, c'est un exemple peut-être un peu extrême de quelqu'un qui, alors qu'il avait toute la notoriété qu'il aurait pu souhaiter à la fin des années 60, au début des années 70, a décidé délibérément de retrouver la solitude pour pouvoir continuer à créer et à penser par lui-même. Et donc, il s'est complètement isolé. Mais cet isolement, manifestement, n'a pas été, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, n'a pas été négatif, puisque précisément ça lui a permis de réaliser ce que son père n'avait pas pu faire, et d'écrire pendant des jours et des jours et des jours.
Est-ce que vous me permettez de lire un court texte de Grothendieck, qui figure dans le roman,
Entendu. Bien sûr, d'accord,
je vous en prie. Jalons.
Non, bien sûr.
Donc... Grothendieck a donc écrit ceci.
Oui, oui.
Craindre l'erreur et craindre la vérité sont une seule et même chose. Celui qui craint de se tromper est impuissant à découvrir. C'est quand nous craignons de nous tromper que l'erreur qui est en nous se fait immuable comme un roc. Car dans notre peur, nous nous accrochons à ce que nous avons décrété vrai un jour, ou ce qui depuis toujours nous a été présenté comme tel. Quand nous sommes mus non par la peur de voir s'évanouir une illusoire sécurité, mais par une soif de connaître, alors l'erreur, comme la souffrance ou la tristesse, nous traverse sans se figer à jamais, et la trace de son passage est une connaissance renouvelée.
Oui, alors ça c'est effectivement un texte absolument magnifique qui figure dans un traité qu'il a écrit, qui s'appelle « Récolte et semailles », et qui va être publié par Hermann d'ailleurs, et qui n'a jamais été publié depuis des années 80, donc il l'a écrit ce recueil en 86, Ça va paraître maintenant, donc très, très, très longtemps après. Et c'est très étonnant, effectivement. D'abord que ça n'est... Bon, une des raisons pour laquelle ça n'a pas été publié, c'est que c'est un texte qui est très, très long. Très, très long, il fait environ 1500 pages. Et ce qui est très intéressant, en fait, à propos de ce texte, c'est qu'il est plein de réflexion du niveau de celle que vous venez de lire, qui est tellement importante, bien sûr, puisque l'erreur, la craindre l'erreur, si vous voulez, c'est quand même le pain quotidien du mathématicien, bien entendu, je veux dire. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est par exemple, le monde mathématique... si vous voulez, a été confronté au départ de Grothendieck. Ça a été un départ qui a été très, très mal vécu, puisque, si vous voulez, il ne pouvait pas se plaindre. Il avait été parfaitement reconnu, etc. etc. Et en fait, on peut dire quand même qu'il avait laissé des chantiers qui étaient encore pas terminés, quoi. Donc, en fait, dans Récolte et semailles, il y a un côté qui est un peu négatif, alors qui a été surexploité par les gens qui ne l'aiment pas, mais qui est qu'il se plaint du fait que ses successeurs, enfin ses élèves, enfin, etc., n'ont pas vraiment continué sa construction comme il l'aurait voulu. Mais bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi lui ne l'a pas continué? Donc, alors c'est très intéressant en fait que il y a un échange de lettres entre Jean-Pierre Serre, le mathématicien qui était professeur au Collège de France, et qui est vraiment sans doute le plus grand mathématicien français, et Alexandre Grothendieck. Et dans cet échange de lettres, à un moment donné, Serre reçoit Récolte et semailles, donc l'ouvrage de Grothendieck. Et c'est très très intéressant l'échange qui en résulte, parce que Serre se demande, et il se demande en écrivant à Grothendieck, pourquoi Grothendieck est parti. Et alors, il met d'abord l'hypothèse, il dit que peut-être, l'une des raisons, c'est que Grothendieck était écrasé par le poids des milliers de pages qu'il avait écrites. Bon, c'est vrai qu'il avait, si vous voulez, il était extrêmement prolifique. Sa méthode pour attaquer un problème ou pour réfléchir à une situation, sa méthode, c'était, ça c'est Serre qui le dit, c'était de au lieu de se confronter directement à un problème, c'était de le laisser se dissoudre dans une marée montante de théories générales. Donc c'est pour
c'est
vous
magnifique.
Dire, c'est magnifique, bien sûr. Mais et c'est exactement la méthode qu'il posait. C'est-à-dire, je me souviens d'avoir parlé avec, je crois que c'était de Mazur, qui une fois discutait avec Rothendieck en descendant à la cafétéria à l'IHES. Et qui lui avait posé une question sur un problème très précis de SL2Z ou un truc comme ça. Et alors, Grothendieck lui avait répondu que ce n'était pas la bonne manière de formuler le problème, etc. Et finalement, cette question avait résulté dans un des livres qui s'appelle SGA4, je crois, ou peut-être, non, peut-être pas SGA4, enfin, bah, peu importe. C'est un des volumes des éléments. Et c'est incroyable, si vous voulez, parce que, en fait, pour résoudre un problème, en fait, il ne pouvait y réfléchir que s'il le mettait au sein d'une énorme théorie comme ça. Alors, ce qui est très intéressant...
Un raisonnement qui est à l'inverse de celui que vous dénoncez...
Oui, bien sûr. Bien
dans
sûr.
Le fonctionnement des machines.
Bien sûr. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sert à une autre suggestion. C'est-à-dire, il dit que, bon, peut-être que la raison, ça n'est pas le fait que, justement... Grothendieck était écrasé par des milliers de pages, parce que finalement, bon, il avait survécu à ça pendant des années. Non. Il lui suggère qu'en fait... La raison, c'est que précisément sa méthode de travail, c'est-à-dire cette méthode qui consiste à faire dissoudre un problème dans des marées montantes de théorie générale, ne s'appliquerait pas à la théorie des nombres. Or, le problème dont il est dans le livre, que le livre a pour thème, hein, bien sûr, le spectre d'Atacama, c'est typique, et c'est un problème bien sûr auquel Grothendieck s'intéressait, c'est typique d'un problème de ce qu'on appelle de théorie des nombres. Et ce que disait Serre, c'est qu'en fait, justement, la théorie des nombres, sans doute, ne se prête pas du tout à ce genre d'approche, parce que la raison étant que, en théorie des nombres, alors que dans d'autres théories, on sait à peu près quelles sont les théories mathématiques qui vont être impliquées, donc on peut les retravailler avant de s'adresser directement à cette question particulière. Dans le cas de la théorie des nombres, en fait, on ne sait pas. C'est-à-dire, on ne sait pas du tout quelles seront les portions des mathématiques qui vont être impliquées dans la résolution d'un problème. On peut très bien avoir des surprises complètement inattendues, de choses complètement inattendues qui, en fait, vont jouer un rôle crucial. Donc, c'est une explication, et je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans cette explication. C'est-à-dire que dire que Grothendieck est parti parce qu'il a appris que l'IHES était financé par l'OTAN ou c'est une escroquerie, parce qu'en fait, il avait sûrement une raison profonde pour partir, et d'essayer de comprendre cette raison, ça reste mystérieux, bien sûr, mais on pourrait... À mon avis, on pourrait aussi y voir précisément cette espèce de fuite qui est assez quand même compréhensible lorsque on est atteint par la notoriété et que finalement on réalise que on perd par ce biais-là ou autrement, là, quand je parlais des messages électroniques, etc., on perd cette faculté d'isolement qui est cruciale dans la création, qui est absolument vitale dans la création, dans la concentration même, je dirais. Voilà.
De façon plus littéraire, le personnage principal qui est mathématicien, qui s'appelle donc Armand,
oui.
Lui croit au signe.
Oui, alors ça c'est encore un autre aspect, parce que je me souviens même d'avoir eu encore hier une discussion avec plusieurs personnes sur cet aspect-là. C'est un aspect qui est extrêmement délicat à expliquer, parce que bon, nous sommes tous rationnels, je veux dire, nous croyons bien sûr entièrement à la rationalité, il ne s'agit pas de questionner cela. Non. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de croire à une espèce de, si vous voulez, de conspiration ou de signe venant d'un ailleurs, etc. Il ne s'agit pas du tout de ça. Non. Il s'agit au contraire d'essayer de mieux exploiter notre intelligence intuitive. Pourquoi ? Parce qu'il y a des situations, indéniablement, dans lesquelles nous percevons certains signes, il faut les appeler des signes, certains signes qui, si nous y prêtons attention, vont nous mener dans la bonne direction. Et qui, si nous les ignorons, nous confinerons à l'échec. Mais ce sont des signes qui sont imperceptibles. qui sont extrêmement difficiles à rationaliser. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on essaye de les rationaliser, on les détruit. Et à mon avis, c'est une capacité extraordinaire de l'esprit humain qui est précisément d'arriver à les reconnaître et d'arriver à en faire quelque chose. En faire quelque chose au sens où justement ça va être un moteur pour s'intéresser à certaines directions, ça va être un moteur pour faire progresser dans certaines directions. Et ça ne correspondra pas forcément au moment où ça se produit à quelque chose de rationnel, mais ça donnera quelque chose de rationnel au bout d'un moment.
A posteriori.
A posteriori. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui fait partie de toute une dimension artistique de l'existence que certains peuvent ignorer, bien sûr, mais que beaucoup de gens ont rencontré au cours de leur vie. Ils en ont fait quelque chose ou rien. Mais c'est très... Je veux dire, en fait, quand on discute avec pas mal de gens, on s'aperçoit que beaucoup de gens ont une expérience comme ça.
Oui, mais justement, oui. J'allais vous poser la question. Oui. Je suis désolé de vous...
Bien voilà. Sûr, bien sûr. Oui.
Quel type de signe auriez-vous vous-même rencontré au fil de votre vie, votre carrière, pour qu'on saisisse un petit peu mieux de ce
oui,
dont
bien
il
sûr.
S'agit.
Ah ben ça, je peux vous donner un exemple. Je peux vous donner un exemple très précis, en fait, de ce qui m'a fait débuter vraiment la recherche en mathématiques. Enfin bon, j'étais déjà passé par l'école normale, j'étais déjà élève de Gustave Choquet, et c'était un moment où c'était en 1971, j'avais été invité. Mais c'était vraiment tout à fait inopiné. J'avais été invité à une conférence à Seattle, aux États-Unis. J'ai été invité à une conférence à Seattle, aux États-Unis, mais bon, j'avais accepté d'y aller en tant qu'auditeur, bien sûr. Hein, je n'étais pas du tout invité à parler. Et j'avais accepté d'y aller parce que j'étais jeune marié. Et c'était une occasion formidable d'aller aux États-Unis. Donc, nous étions partis avec mon épouse, avec Dani. Et nous avions débarqué à Princeton pour aller à Seattle. Mais nous avions comme intention de prendre le train à travers le Canada, parce que nous n'aimions pas l'avion. Donc, de traverser le Canada en train. Et nous savions que ça durait très longtemps. Ça durait 5 jours à l'époque. Et donc, à Princeton, où se trouvait mon frère Bernard, c'était au mois de juillet, c'était extrêmement chaud. Donc, on s'était réfugié au bookstore, dans la librairie, qui à l'époque était un endroit remarquable. Et donc, on avait passé l'après-midi là-dedans. Et moi, j'avais cherché, un peu au hasard, un livre que je pourrais feuilleter pendant le voyage pour ne pas m'ennuyer. J'avais hésité. Plusieurs livres, j'avais hésité entre en fait deux trois livres. Puis finalement j'en avais choisi un. Bon, je l'avais choisi et puis on s'était embarqué dans le train, on avait traversé le Canada, ça durait. Et alors c'était effectivement de l'ennui, hein. On parlait de l'ennui, là il n'y avait pas de mail, il n'y avait rien. C'était l'ennui pur. Et j'avais exploré ce livre avec beaucoup de curiosité. L'auteur était un Japonais et j'avais été tellement fasciné par le livre, je ne comprenais pas trop ce qu'il y avait dedans, qu'on avait décidé d'aller, avant d'aller à Seattle, on irait sur l'île de Victoria et puis on chercherait des... Parce que c'était proche du Japon, en fait, c'était en face du Japon. Et donc là, on s'était renseigné, on avait acheté des tableaux, enfin, etc. Et puis finalement, on était arrivé à Seattle. Et en arrivant, j'étais allé voir quel était le programme de la conférence. Et à ma grande surprise, l'auteur du livre était là et faisait une série de lectures dessus. Donc là, j'y ai vu un signe et j'ai décidé que je n'irai à aucun autre exposé, seulement à celui-là, et que j'investirai tout mon temps dans cette direction. Je l'ai fait, on est rentré. Et en septembre, une fois qu'on est rentré, il y avait en France un séminaire sur le même sujet, qui était le sujet des algèbres d'opérateurs. Ce séminaire était dirigé par Jacques Dixmier, notre co-auteur. Et donc j'ai décidé d'aller au séminaire de Jacques Dixmier. Donc je me suis présenté au mois de septembre au séminaire de Jacques Dixmier. Et Jacques Dixmier a annoncé le sujet du séminaire. C'était un autre sujet, c'était sur un autre sujet. Et il a distribué des articles à étudier pour exposer dans son séminaire. Et j'ai pris un des articles qu'il proposait. Et en rentrant, quand je rentrais dans le train de banlieue pour rentrer chez moi, je me suis aperçu qu'il y avait un lien extraordinaire entre la théorie que j'avais entendue à Seattle et le sujet que Dick Smith donnait. Et c'est ça qui a fait ma thèse. Donc, qu'est-ce que j'entends par là, par les signes ? J'entends la chose suivante. Un être entièrement insensible, entièrement, comment dire, rationnel, lorsqu'il serait arrivé à Seattle, aurait dit « Ah tiens, coïncidence amusante, c'est amusant finalement que j'ai pris ce livre et qu'il y ait eu cette conférence. » Et puis, il aurait été écouter les autres conférences et il n'aurait absolument pas investi, parce que c'était un investissement considérable, il n'aurait absolument pas investi, comme je l'ai fait, l'essentiel de son temps dans l'étude de ce sujet. Quand il serait rentré, il serait retourné voir Gustave Choquet pour continuer à faire les travaux qu'il faisait avec lui, etc. Donc c'est ça que j'entends. Ce que j'entends, c'est que il est des situations où il faut savoir écouter quelque chose et aller s'engager à fond dans une direction, même si on est sûr de rien. Je veux dire, il n'y avait rien de rationnel derrière. Il n'y avait strictement rien de rationnel. En fait, je travaillais sur un autre sujet avant, etc. J'ai complètement bifurqué. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, si vous voulez, c'est un enseignement. C'est un enseignement qui, à mon avis, n'appartient qu'à l'âme humaine. Qui n'appartient pas à des machines.
Mais ça ressemble de fait à quelque chose comme de la relation amoureuse ou un coup de foudre, vous savez.
Oui, absolument.
Ou même de façon éventuellement rétrospective, les amoureux disent « Ah ben oui, mais
oui, bien sûr.
Tel jour,
bien sûr.
Portez tes chapeaux. »
Bien sûr, bien sûr. Oui, oui.
Mais ça peut donner une force.
Et ça donne une force extraordinaire. Donc l'idée, si vous voulez, quelle est l'idée ? Elle est très difficile à expliquer. Elle est extrêmement difficile à expliquer. Et dans le livre, je ne vais pas reciter cette citation parce que je l'ai déjà citée plusieurs fois, mais on donne, si vous voulez, une citation de Shakespeare qui est magnifique, magnifique. Pourquoi elle est tellement magnifique, cette citation ? C'est une citation qui est dans Jules César de Shakespeare. Il faut la regarder dans le livre. Je ne vais pas la reciter, parce que, à moins que vous la lisiez. Ouais. Mais si vous voulez, pourquoi elle est magnifique, cette citation ? Elle est magnifique parce que c'est extrêmement difficile d'expliquer ce que je viens de dire. C'est extrêmement difficile parce que si on essaye de rationaliser cette chose-là, elle s'évanouit. Donc, c'est extrêmement subtil d'arriver à le dire de manière intelligente, en faisant percevoir ce que c'est. Et alors, la raison pour laquelle c'est vraiment subtil, on s'en est aperçu, c'est que les traductions sont abominables. J'étais obligé de retraduire moi-même cette citation de Shakespeare, parce que les traducteurs n'avaient pas compris.
Ça vous ennuie si je la lis finalement?
Non, lisez-la. Du moment que ce n'est pas moi qui la lis.
Tous nos auditeurs doivent se languir maintenant.
Absolument, d'accord, bien sûr.
Il est une marée dans les affaires des hommes, qui prise à son apogée conduit à la fortune. Ignorer tout le voyage de leur vie et confier aux bas-fonds et aux écueils, sur une telle mer nous sommes maintenant à flot et devons suivre le courant quand il forcit ou réduire à néant nos projets.
C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est incroyable, si vous voulez, que c'est pas du tout un concept nouveau. C'est un concept qui a fait partie de l'âme humaine depuis toujours, mais qui est extrêmement difficile à concilier avec la rationalité. Et ce qui est amusant, c'est que très souvent, je veux dire, la manière qu'on a de discréditer des gens qui croient à ça, enfin, je veux dire, qui peuvent suivre ça, c'est qu'on dit, non, ben, ils sont irrationnels, etc. Alors on dit, mais en fait, c'est d'une prétention incroyable. Pourquoi ? Parce que, en quel sens sommes-nous, si vous voulez, tellement intelligents que nous avons explication à tout ? J'ai eu ce dialogue très intéressant avec Jean-Pierre Changeux, si vous voulez, qui était un matérialiste, qui est toujours un matérialiste pur et dur. Mais comment pouvons-nous croire que, par exemple, nous pouvons tout réduire à la matière ? Quand on connaît le quantique et qu'on sait que, si vous voulez, toutes les subtilités qui apparaissent dans l'infiniment petit, on s'aperçoit que c'est basé des choses sur du sable. Et que notre prétendue compréhension rationnelle, matérialiste, etc., du monde extérieur, en fait, elle est sûrement extrêmement limitée.
Elle est déjà datée.
Comment ?
Elle est déjà datée.
Elle est déjà datée. Et bon, je veux dire, à mon avis, c'est vraiment d'une prétention extraordinaire de nier des choses que nous pouvons ressentir par nos sens, mais que nous ne pouvons pas expliquer de manière rationnelle, en utilisant notre rationalité telle que nous la connaissons d'habitude. Ça, c'est... Et bon, il y a un autre exemple de ça, si vous voulez. Il y a un autre exemple qui est justement très très bien illustré par une des autres notions qu'on a introduites dans le livre, qui est due à Grothendieck, bien sûr, qui est la notion de topos. Et c'est les subtilités sur la notion de vérité. C'est-à-dire, nous croyons, par exemple, si nous assistons à un débat politique, etc., nous raisonnons toujours en termes de qui a raison, qui a tort. Et en fait, c'est d'un simplisme extraordinaire. Parce que, justement, dans la notion de topos, on s'aperçoit que la notion de vérité est une notion qui, dans un topos, ce qui est un truc parfaitement conceptuel, bien compris, etc., est une notion beaucoup plus subtile que simplement le vrai ou le faux.
Ça nous ramène à ces outils informatiques,
bien sûr,
binaires.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Donc, mon espoir, c'est que si le livre peut avoir une influence, ce soit précisément cette influence de nous faire réfléchir à la direction dans laquelle nous sommes en train de nous engager sans regarder. Je veux dire, on file droit, on file vraiment droit dans cette direction-là. Et bon, si ça peut avoir un peu cette influence-là, et en particulier justement, j'ai fait un exposé justement il n'y a pas très longtemps sur Grothendieck. Ça s'appelle « Lecture grothendieckienne », c'est une série d'exposés qui est organisée par des élèves de l'école normale. Et dans cet exposé, j'ai essayé de montrer, par un exemple très simple d'un topos, que par exemple, on pouvait comprendre ce que ça signifie d'être à 3 pas de la vérité, à 4 pas de la vérité, 5 pas de la vérité. Il y a un topos qui permet de formaliser cette chose-là.
Ouais. Mais expliquez-nous ça.
Ah, bon, je peux essayer de vous l'expliquer, effectivement. Bon, je ne veux pas être technique. Hein. Mais donc, ce qui se produit, si vous voulez, c'est qu'un topos, donc, c'est une notion qui est... C'est un concept absolument merveilleux qui a été inventé par Grothendieck en 1958. Donc, il a fait ça après une période de dépression qu'il avait eue à la mort de sa mère, à laquelle il tenait énormément. Et donc, cette notion de topos, on peut la comprendre par une métaphore. On peut la comprendre par une métaphore. Un topos, c'est un espace. C'est un espace. Alors, les mathématiciens ont inventé toutes sortes d'espaces, une forme, un espace topologique. Un espace topologique, c'est un espace qui est formé de points qui sont plus ou moins proches les uns des autres, etc. Mais jusqu'à la notion de topos, un espace, c'était toujours quelque chose qu'on devait voir, qui était au devant de la scène, si vous voulez. D'accord ? Et alors, la notion de topos qu'a inventé Grothendieck, ce qui est absolument incroyablement original et, je veux dire, inventif, c'est que l'espace lui-même, on ne le verra jamais. Ce qui va se produire, c'est que cet espace, il ne sera jamais au devant de la scène. La scène elle-même sera occupée exactement par ce à quoi on est familier, la théorie des ensembles. Donc, au devant de la scène, on aura les mêmes personnages qu'on a d'habitude. On aura des ensembles, des groupes, des anneaux, tous les personnages mathématiques qu'on connaît. Ils seront inchangés, d'accord ? Quel sera le rôle du topos ? Donc c'est comme si on avait un théâtre, et dans ce théâtre, on avait les personnages usuels. Mais que fait le topos ? Le topos, c'est une espèce de deus ex machina qui est dans les coulisses et qui introduit une variabilité. Donc, au lieu que les personnages soient fixes, ils ont une variabilité. Et cette variabilité, elle est gouvernée par le topos. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que l'on arrive à connaître toutes les propriétés de l'espace en question, du topos en question, simplement par la variabilité qu'il introduit dans la théorie des ensembles. Et parmi cette variabilité, il y a précisément le fait que quelque chose n'est plus soit vrai, soit faux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une variabilité. Ça peut être vrai à certains moments, faux à d'autres moments. D'accord. Et alors, un topos, donc c'est une notion mathématique extrêmement précise, ça permet, si vous voulez, de faire de la théorie des ensembles. Donc on fait exactement comme si on faisait de la théorie des ensembles ordinaire, mais ce qui change simplement, donc toutes les propriétés des ensembles qu'on utilise d'habitude, des propriétés assez bizarres, de produits, de limites, etc., toutes ces propriétés sont vraies. Toutes ces propriétés continuent à être vraies. On ne voit aucune différence. D'accord. La seule différence qu'il y a, c'est qu'on ne peut plus raisonner par l'absurde. C'est-à-dire qu'il n'est plus vrai que une proposition est soit vraie, soit fausse. Et alors, il y a une notion de nuance sur la vérité qui s'introduit. Et Bon, alors là, il faudrait que je rentre un peu dans les détails techniques, mais on peut fabriquer un topos très simple, c'est ce qu'on appelle le topos des ensembles avec simplement une transformation sur l'ensemble qui n'est pas forcément inversible. Et quand on regarde ce topos, on s'aperçoit que la notion de vrai ou de faux, elle devient plus subtile et elle devient soit on est dans la vérité, donc on est dans le vrai, d'accord ? Soit on est à distance 1, 2, 3, s'il faut, à l'infini de la vérité. Et être à l'infini de la vérité, c'est faux. Mais on peut être entre les deux. C'est-à-dire on peut être à 10 pas de la vérité. Et ça a un sens mathématique parfait. C'est ça qui est incroyable. Ça a un sens mathématique absolument parfait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si, par exemple, on voit une discussion politique, on voit, vous savez, ces plateaux de télévision où les gens se battent, s'écharpent, etc. En général, nous, on dit, ben, celui-là a raison, celui-là a tort. Mais c'est d'un simplisme absolu. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, et ça, bon, bien sûr, il faudrait quelqu'un qui soit capable à la fois de comprendre bien la discussion et de comprendre l'abstraction qui est derrière un topos, mais certainement que dans ces cas-là, il y a un outil de compréhension que personne n'a et qui permettrait de vraiment comprendre, de vraiment savoir ce qui se passe. Alors, donc ça, c'est un exemple, si vous voulez, de l'extraordinaire pouvoir, de l'extraordinaire fécondité qu'a la création de concepts par les mathématiques, c'est aussi vrai pour la physique, et que qu'on a l'impression qu'on balancerait aux orties, si vous voulez, si justement on était remplacé par des machines et que, bah avec leur côté binaire, etc. Donc, je pense, si vous voulez, mon attitude et mon espoir, c'est que finalement, les progrès du machine learning peuvent être infiniment utiles, comme je le disais pour la traduction. Il ne s'agit pas de les nier. Moi, j'utilise l'ordinateur tout le temps comme aide, etc. Mais que tant que ça reste un outil, tant que ça reste, si vous voulez, quelque chose qui est un espèce d'esclave, ça ira. Mais qu'à partir du moment où on sera envahi par ça, comme je le disais tout à l'heure, quand je reçois des offres d'emploi de pédagogisme au Québec ou un truc comme ça, je veux dire, là, ça sera grave. Et si on se laisse envahir, si on se laisse, transformer en cases, en cellules, etc., là on court à notre perte. C'est vraiment l'impression que j'ai, si vous voulez, c'est qu'on court à notre perte. Et qu'avant qu'une machine arrive à inventer la relativité générale ou arrive à inventer les topos, heureusement, il reste encore une marge. Mais préservons cette marge avec un respect infini.
Ce qui est intéressant dans votre démarche et cette réflexion qui devient centrale dans nos sociétés sur l'intelligence artificielle,
bien sûr,
c'est que généralement, on craint que l'intelligence artificielle nous surpasse. Si je comprends bien, vous craignez plutôt qu'elle nous abaisse.
Oui, exactement. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ce qui me fait peur, si vous voulez, c'est... Bon, bien sûr, comme je le disais, moi-même, j'utilise l'ordinateur tout le temps, donc il ne faut pas le nier. Par contre, ce qui me fait vraiment peur, c'est les effets que je vois, les effets réels que je perçois. Et les effets réels que je perçois, ce sont des absurdités. Et si vous voulez, si... Alors, évidemment, ce qui me fait tellement peur, c'est qu'on parle uniquement de l'intelligence artificielle. Il y a un autre côté, je ne le nommerai pas. Mais ce côté, si on arrive à innover en bêtise autant qu'on innove en intelligence, et si on se fait envahir par la bêtise... ce sera extrêmement difficile de faire machine arrière. Ce sera pratiquement impossible de faire machine arrière. Je veux dire, quand les gens passeront leur temps à faire des choses idiotes, leur journée à faire des choses idiotes, mais vraiment idiotes, c'est ce qui arrive maintenant. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un avant de venir qui me parlait de payer ses impôts. Il payait ses impôts, on lui reprochait si on en arrive à un degré d'idiotie qui nous gâche l'existence, là c'est grave, c'est très très grave.
Oui, avec votre réflexion sur les mathématiques et votre expérience de scientifique, vous arrivez à des, ça vous fera plaisir, je pense, à des conclusions similaires qu'un écrivain.
Oui.
dans ce studio même, Andrei Makine, qui disait l'intelligence artificielle.
Oui.
Ah oui, c'est certainement un danger, mais ce qui serait surtout un danger, c'est que nous devions nous-mêmes des machines.
Ah oui, je crois que c'est le danger principal.
Mais il n'en parlait pas au futur, il en parlait au présent.
Non, mais et c'est vrai que si vous voulez, on peut estimer le degré de machinisation. Enfin, c'est un terme sans doute inapproprié, mais c'est en croissance exponentielle. C'est-à-dire le temps que l'on passe dans la journée à se plier à ces choses-là par rapport à l'ennui, par rapport à la rêverie, c'est terrible. Ça. Et ce livre est un cri du cœur dans l'autre direction. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Ça veut dire, c'est un roman. C'est vraiment un cri du cœur dans l'autre direction. C'est comme ça qu'il faut le lire, c'est comme ça qu'il faut le percevoir.
Aussi contre les process, les procédures, les normes.
Ben voilà, bien sûr, les normes. Regardez, je ne sais pas, par exemple, on nous a fait... Bon, je vais pas en parler, mais je veux dire, c'est terrible, ces normes qui arrivent à l'absurde. On arrive à l'absurde le plus total. On perd son temps.
Mais à titre personnel, pour échapper à tout ça, on fait comment? Parce que vous me dites, il faut qu'on aille dans une autre direction, de façon collective, hélas.
Ben, il faut qu'on apprécie, qu'on donne leur vraie valeur, ben, par exemple à la littérature, aux concepts et aux choses qui sont, je l'espère, vraiment totalement inaccessibles aux machines. Il faut qu'on leur donne leur vraie valeur. En fait, d'ailleurs, c'est ce qui se produit en mathématiques. C'est très, 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 très amusant parce que, si vous voulez, dans le temps, il y avait des gens qui étaient, très prisés par leurs connaissances livresques. Par exemple, ils connaissaient toutes les fonctions spéciales, etc. Et ce genre de connaissances est complètement obsolète et complètement dépassé par l'ordinateur. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très bien, si vous voulez. Le fait que, maintenant, l'ordinateur, on lui met une fonction et il vous donne le nom de la fonction spéciale. Bon, ça, c'est très bien. Ça, c'est parfait. Donc, en fait, ça recadre ce qui a de la vraie valeur par rapport à ce qui n'en a pas. Et cette espèce de... Le fait, vous voyez, d'être extrême, de connaître un tas de choses dans un certain domaine... tout ça, c'est effectivement complètement obsolète. Mais la vraie créativité, la vraie inventivité, alors ça, c'est autre chose. Et c'est quelque chose qui est tellement précieux, mais qui va devenir, justement, mise en valeur. Mon espoir, c'est que ces choses-là soient vraiment mises en valeur, la créativité, justement, toutes ces choses-là, soient vraiment mises en valeur par le contraste avec la machine. C'est ça que j'espère. C'est vraiment ça que j'espère.
Vous espérez que cette valeur inestimable ne soit pas réservée à un petit nombre.
Non, bien sûr que non.
Société polarisée avec d'un côté les créatifs.
Ah non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Il faut que, au contraire, ces outils permettent à la créativité de s'exprimer, de comparer, etc. Bien sûr. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Ça, il ne faut pas hésiter.
Écoutez, votre roman s'appelait Le Spectre d'Atacama, qui est un titre qui peut faire un petit peu peur, mais nous avons certainement des raisons d'avoir peur, mais aussi de nous réjouir, et puis vous donner la méthode, et même des pistes, car je dois dire que le livre est constellé de références aux mathématiques, à différentes équations, des énigmes scientifiques, mais aussi de poésie.
Mais il a été merveilleusement édité par Odile Jacob. Ça, il faut lui tirer, je lui tire mon chapeau, parce que vraiment, elle a fait un travail extraordinaire. Et elle nous a soutenus, il faut le dire, tout au long de la création de ce livre. Elle nous a soutenus vraiment de manière extraordinaire. Elle s'est investie formidablement. C'est une occasion pour la remercier, vraiment.
C'est très bien, nous vous remercions aussi. Et pour conclure, puisque nous avons parlé de poésie comme un antidote, si vous voulez bien, je vais lire quelques vers.
qui ne dévoileront pas
l'ensemble de l'énigme. J'embrasserai les visiteuses voyageant depuis Beltégueuse. J'accueillerai la Légion en provenance d'Orion. S'ils viennent d'autres galaxies, nous parlerons de biologie. Avec ceux venant du Verseau, nous danserons un boléro. Avec ceux des zones mythiques, nous ferons des mathématiques. Rien que pour ces vers, merci beaucoup, monsieur.
Je vous en prie. Merci.
Nos auditeurs peuvent et doivent même se plonger dans le spectre d'Atacama, d'Alain Cohn, Denis Chéreau, Jacques Dixmier, aux éditions Odile Jacob, comme cela vient d'être précisé. Merci beaucoup.
Merci.